Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien au Capi Service. C'est un plaisir de vous retrouver. Alors à présent, nous allons aborder un autre thème qui va certainement vous intéresser. Nous allons parler de la place de la femme dans l'entrepreneuriat et la politique 63 ans après l'indépendance. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir? Eh bien, les femmes sont peu représentées dans les instances de prise des décisions ainsi que dans le monde du business d'après nos sources. Pourtant, le pays dispose d'un arsenal juridique qui garantit la parité homme-femme. À l'occasion du 63e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, on se pose aujourd'hui la question de savoir quel bilan dresser à propos de la représentativité de la femme en politique ainsi que dans le monde des affaires. Eh bien, on en discute aujourd'hui dans cette émission avec Madame Ketia Olangi, elle est présidente de la Fondation Neema. Madame Ketia, bonjour.
Bonjour, Monsieur Jody.
Bienvenue dans cette émission. Alors, la première question de savoir, aujourd'hui, 63 ans après l'indépendance, quelle est la place de la femme dans le monde des affaires?
Merci beaucoup. Ça a toujours été pour moi un réel plaisir de venir participer à Radio Okapi. Vous savez, si vous dites que la femme congolaise n'est pas une femme entrepreneur, ça serait trop dire. En parlant de 63 ans, vous savez, notre pays est passé dans des situations très compliquées, la crise économique, les guerres à l'Est. Vous allez comprendre avec moi que c'est la femme congolaise qui était au centre. Parce que ce sont nos mamans qui allaient, comme on dit en lingala, au libongo, ce sont nos mamans qui vendent dans les marchés. C'est cette femme congolaise qui a toujours pris sa famille en charge depuis toutes ces années.
Qui s'est débrouillée.
Qui s'est débrouillée, voilà. Justement, on ne peut pas négliger cet aspect-là. C'est vrai qu'elle le faisait, mais dans l'informel. Mais tout ce que nous voulons dire à ces femmes-là, c'est de les faire passer à l'informel dans le formel. C'est-à-dire de structurer tout ce qu'elles font. Parce que toutes ces activités-là génèrent des revenus. Mais maintenant, comment faire l'entrepreneuriat? En fait, pour moi, j'ai une définition de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est juste de formaliser ce que nos mamans faisaient déjà. Parce qu'elles le faisaient dans l'informel. Elles le faisaient en raison de survie pour pouvoir nourrir les familles. Mais maintenant, en même temps, ça générait des revenus. Maintenant, comment faire pour structurer ce qu'elles font déjà? C'est ça l'entrepreneuriat.
Donc, on peut dire que, on peut pas dire que les mamans ne faisaient rien.
Non, déjà, ce sont des femmes fortes. Ouais.
Les femmes étaient déjà dans l'entrepreneuriat depuis très longtemps.
Oui.
Alors, par rapport à la structuration, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que leurs activités sont structurées?
En tout cas, moi, je suis très contente. C'est vrai qu'on n'a pas encore atteint les pourcentages que nous voulons, mais je suis très contente parce que il y a cette sensibilisation, c'est les ateliers, les formations sur terrain. Il y a beaucoup de femmes qui ont formalisé leur secteur d'activité économique. Il y a beaucoup de femmes qui le font dans tout ce qu'elles font, dans les filières manioc, dans l'agriculture, dans ce qu'elles font, elles vendent au marché. Je suis très contente de savoir qu'il y a plusieurs femmes qui ont, comment je peux dire, qui ont shifté de l'informel au formel parce qu'elles ont eu plus de formation et de la connaissance en sachant que tout ce que j'ai fait, ça génère des revenus. Mais si je structure très bien, je vais augmenter la capacité de ce que je fais.
Alors aujourd'hui, est-ce qu'on on a une idée du nombre de femmes aujourd'hui qui entreprennent, qui sont dans les business à travers le pays?
Bon, je n'ai pas fait
des proportions, d'estimation.
Voilà, je n'ai vraiment pas fait de recherche, mais si je peux estimer sur 100% des femmes congolaises, je peux me dire peut-être 10 à 15, mettons 20% des femmes qui ont shifté, qui ont fait un shift de l'informel au formel. Bah, ce sont des femmes qui ont accès à la formation, ce sont des femmes qui ont accès à participer dans des conférences. Et je pense que nous, en tant que leader, en tant que femme leader, c'est de faire encore plus de bruit, d'aller vers ces femmes-là, continuer à parler et continuer à les accompagner dans ce qu'elles font déjà.
Mmh. Oui. Et aujourd'hui, quelles sont les barrières à l'entrepreneuriat féminin qui doivent être levées pour permettre à un plus grand nombre de femmes de s'engager dans le business?
Je pense que c'est l'accès aux finances. le financement, c'est un grand problème. Quand je parle de financement, c'est les microcrédits. Nous n'avons pas assez de banques qui accompagnent l'entrepreneur féminin. Quand je parle en connaissance de cause, parce que moi, je suis femme entrepreneur, et ça a toujours été un challenge pour moi d'avoir un accompagnement, d'avoir des finances. Alors, je pense que le plus grand problème, c'est les finances. Parce que si vous voulez formaliser, si vous voulez structurer des choses, si vous voulez augmenter la capacité de production, vous devez avoir plus de moyens. Et le plus grand problème que nous avons ici au Congo, c'est les financements.
C'est le financement. À part le financement, quels sont les autres obstacles?
C'est aussi l'accès à l'éducation financière, c'est aussi l'accès à la connaissance. Parce que, vous savez, beaucoup de femmes qui vendent, par exemple, je vais donner un exemple banal, qui vendent de l'arachide, qui vendent tout ce qui est produit de première nécessité, elles le vendent, mais c'est comme je dis, elles n'arrivent pas vraiment à vraiment rentabiliser ce qu'elles font. Pour elles, elles se disent, je vends
pour aller nourrir
mes enfants. Voilà. Mais elles ne savent pas que si elles arrivent à transformer, quand je parle de transformer, si elles arrivent à avoir accès au financement et pouvoir produire à grande échelle, c'est d'abord, premièrement, réduire le chômage parce qu'elle aura engagé des gens pour travailler pour elle. Donc, il y a tout ça et je pense que pour acquérir toutes ces connaissances, il faut suivre beaucoup de formations. Parce que moi, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu à suivre des formations, aller dans des ateliers, et ça m'a permis d'avoir plus de connaissances et de faire mieux. Alors, la première chose, c'est la connaissance d'abord. Qu'est-ce que nous faisons? La connaissance. Allons vers ces femmes-là, donnons des formations, et ça va leur ouvrir l'esprit.
Bien, on va accueillir Madame Honorable Solange Nyenyezi Amissi. Bonjour.
Bonjour à la radio Capi, à tous les auditeurs.
Vous êtes députée nationale et représentante de la plateforme Action pour l'autonomisation et le développement des communautés africaines, ADEAC. Nous parlons aujourd'hui de la place de la femme dans l'entrepreneuriat et en politique. 63 ans après, quel bilan peut-on dresser, Madame Solange?
Oui, effectivement, 63 ans après l'indépendance, je crois que nous n'avons plus droit à l'erreur et en principe nous devons à 63 ans, c'est quand même un âge adulte et de sagesse, mais force est de déplorer une présence ou une évolution timide des femmes dans l'entrepreneuriat. Je dirais que aujourd'hui nous avons plus de 80-75% des femmes qui sont dans l'informel. On ne peut pas vraiment dire qu'ils sont dans l'entrepreneuriat formel. C'est une infime partie qui est dans l'entrepreneuriat, peut-être 10%. Et 63 ans après l'indépendance, c'est quand même déplorable. Parce que vous savez qu'à l'heure de l'indépendance, d'abord, les femmes ne travaillaient pas. Les hommes apportaient tout. Ils apportaient tout et facilement, les mêmes hommes apportaient aussi des financements auprès de leurs femmes. Tu vas voir une femme qui travaille, mais au finish, c'est l'homme qui te dit, bon, prends cet argent, va faire un petit commerce. Donc, c'était très difficile. Mais avec les pillages en 1990-91, il y a plusieurs boulots qui se sont vus effrités par ce pillage. Alors on a senti vraiment un renouvellement de l'entrepreneuriat. Tout le monde qui cherchait à vendre quelque chose. On a vu ce qu'on appelait les mamas Lomé, les mamas Moziki 100 kilos.
Et les mamans qui allaient acheter les bazins et autres au Bénin, etc.
Au Bénin. Et puis les mamans Zouzi Wambombo qui tenaient quand même, qui avaient des initiatives. On a vu des femmes comme Chibi Chabene qui avaient des initiatives qui allaient en Chine, mais elles sont peu nombreuses. Et vous savez, en réalité, il y a une loi qui est encore en discussion, pas encore en discussion au Parlement, mais au niveau du gouvernement, il a été transmis sur l'entrepreneuriat, mais nous avons quand même une législation, le droit des femmes, nous avons dans notre constitution qui, en réalité, promet donc la participation de tous, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau politique, Mais vous êtes sans ignorer qu'au niveau politique, nous sommes à plus de 10% au Parlement, hein, des femmes hein, qui participent, donc qui sont en politique. Et au niveau du gouvernement, coup de chapeau, c'est quand même en évolution, c'est déjà 27%. Et c'est vraiment une évolution timide à cause, comme l'a dit Olangui, l'ignorance. L'ignorance des lois, mais l'ignorance aussi de tout cet arsenal juridique sur la création d'emplois. Vous savez, aujourd'hui, on dit qu'il y a un guichet unique. Il y a un guichet unique, avec 30 dollars, tu crées un établissement, avec 120 dollars, c'est une entreprise, et encore qu'il y a moyen aussi d'accéder peut-être aux documents de l'État, patente, différents 10 dollars, 20 dollars, 25, etc. Mmh. Mais quelles sont ces femmes qui connaissent cela? Parce que, il y a certains cabinets qui vous disent non, venez, je vais créer pour vous une entreprise et ils vous exigent tas de choses et finalement.
Et c'est décourage, hein.
Il y a même une étude qui a été faite par ONU Femmes dernièrement, j'ai participé. Mais, force est de constater que plus de 95% des femmes et des jeunes femmes ignorent la procédure d'une création d'entreprise. Et aussi l'État doit mettre des éléments incitatifs pour la création d'une entreprise, oui, pour booster l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, comme l'a dit Madame Olangui, il y a quelques personnes qui font de l'entrepreneuriat, mais c'est peut-être des pères en fils et des mères en filles et ainsi de suite. Mais la plupart n'accèdent pas au financement parce que les produits financiers, il y a beaucoup de conditions. Prenons la femme rurale. La femme rurale aujourd'hui n'accède pas au financement qui correspond à ses attentes.
Parce que il existe des coopératives au village, dans les milieux ruraux.
Oui, même dans les milieux ruraux, même ici à Kinshasa, nous avons des communes urbano-rurales comme Mongafula et tant d'autres communes où elles n'accèdent pas. Tu plantes le manioc, tu dois attendre 6 mois pour récolter. Et personne ne va te croire qu'il faut attendre 6 mois pour rembourser ton crédit. Et donc, finalement, tu tournes en rond. Et les voies d'évacuation, les tracasseries, tu ouvres une boutique, tous les services possibles vous viennent. Pendant que vous avez peut-être, vous êtes en ordre. Il y a tout ça là, ça n'encourage pas encore le climat des affaires. Mais je crois que la NAPI est en train de se ranger pour donner suffisamment l'information. Mais nous, les ONG, des droits de femmes, nous devons aussi nous saisir de cette thématique.
Bien,
plusieurs femmes ne sont pas informées.
D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, honorable Solange. Nous parlons de la place de la femme dans l'entrepreneuriat et dans la politique. Madame Kétia Olangui, votre réaction ? Après avoir écouté l'honorable Solange.
Oui, je pense que madame a raison, l'honorable a raison, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je disais, la femme congolaise a eu à faire l'entrepreneuriat, mais c'est dans l'informel. Et je pense que le premier problème, c'est la connaissance. Comme madame vient de le dire, la connaissance. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent même pas qu'elles peuvent aller au guichet unique pour avoir des documents et être légales par rapport à ce qu'elles font comme activité. Donc, il y a tout ça. Vous savez, le manque de connaissances, le manque du savoir, c'est un peu comme quelqu'un qui est un aveugle. Je vais pas appeler ça en d'autres termes, c'est l'aveuglement. Oui. Et c'est très, très important, c'est comme je dis, de sensibiliser ces femmes-là. Et de comprendre que ce que j'ai fait déjà, ça me crée des revenus. Mais comment je peux faire pour augmenter cette production? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, je commence d'abord par où? Et tout ça demande de la formation. Moi, je peux dire que la femme congolaise a un rôle à jouer dans ce pays, qu'elle soit en politique, dans les affaires, mais il faut juste qu'elle soit outillée, qu'elle soit formée. Et c'est ça, pour moi, ce qui est très important par rapport à la femme congolaise.
Et par rapport à l'accès au crédit, hein, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir plusieurs produits à proposer aux femmes et booster l'entrepreneuriat féminin?
Vous savez, moi, je me suis lancée dans l'agriculture. Parce que je me dis, l'agriculture fait partie des choses qui vont développer rapidement notre pays. nous avons 80 millions de terres arables au Congo. Mais est-ce que nous en bénéficions? Est-ce que même ces femmes comprennent l'importance de ce que nous faisons déjà? C'est inconcevable aujourd'hui, nous avons 80 millions de terres arables, mais nous continuons à importer. Nous importons tout, même les produits de première nécessité. Ces femmes-là, elles le font déjà. Mais qu'est-ce que le gouvernement fait pour accompagner ce que ces femmes maraîchères font? Vous savez, au mois de janvier, j'avais organisé une soirée de gala pour primer les femmes agricultrices de Kinshasa. Nous avons découvert une femme qui a fait 30 ans. C'est une femme maraîchère. Elle n'a jamais été primée, elle n'a jamais été reconnue. Et elle le fait pendant 30 ans.
Qu'est-ce qu'elle a fait pendant 30 ans?
Elle est à Petro-Congo. Oui. Elle est dans tout ce qui est comment je peux appeler
maraîchage,
voilà. Mmh. Elle fournit des légumes, couteau et tout.
Oui.
Mais elle nourrit la population. Mais elle est dans l'informel et on ne la connaît même pas.
Depuis
30 ans. Nous l'avions identifiée, elle a été primée et nous leur donnons des formations actuellement. Et si Dieu permet, nous allons les financer et les accompagner dans ce qu'elles font déjà. Donc le problème, c'est tout ça, c'est d'identifier ces femmes-là. Ce sont des femmes entrepreneurs, mais elles sont laissées à leur triste sort. Elles ne savent pas où commencer.
Certains disent que c'est parce que certaines d'entre elles n'ont pas étudié. Il semble que le manque d'alphabétisation aussi est un frein.
Mais c'est vrai, mais qu'est-ce que nous faisons pour apporter une solution à ce problème? Parce que dans tout problème, il y a toujours des solutions. Nous, qu'est-ce que nous faisons en tant que femmes leaders pour apporter des solutions, le changement? Nous n'allons pas les laisser tomber parce qu'elles font quelque chose. Elles sont là, elles produisent et la population mange. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'abord de les identifier, comprendre ce qu'elles ont comme problème, les former et trouver des moyens pour leur donner des microcrédits. Et c'est comme je le disais tout à l'heure, tu parlais des microcrédits, tu parlais des banques,
des coopératives,
tu parlais des banques. Oui, mais vous savez, ces banques-là, c'est compliqué. C'est pas que je suis contre, il y a trop de conditions. Il y a trop de conditions, il faut donner.
Par exemple, il faut des garanties.
Il faut des garanties. Mais la plupart de ces femmes n'ont pas des terres, elles n'ont pas des documents pour aller peut-être donner une garantie. Elles n'ont pas ces choses-là. Mais comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle solution trouver pour pouvoir accompagner ces femmes-là en leur donnant des microcrédits? Et moi, je pense que c'est le gouvernement qui doit donner des garanties. C'est le gouvernement qui doit donner des garanties pour accompagner toutes ces femmes-là qui font déjà, qui produisent déjà. Donc la solution pour moi, c'est ça. La solution, c'est la formation et l'accompagnement et donner des financements.
Et l'honorable Nyenyezi a parlé même de mesures incitatives. L'État devait mettre en place des mesures incitatives pour que les femmes entreprennent.
Oui. C'est ce que j'ai dit. Vous savez, je crois la dernière fois qu'on avait discuté, je vous avais dit qu'au Togo, le gouvernement donne des garanties pour accompagner les entrepreneurs. Et au Togo, leur slogan, c'est « Créer des millionnaires togolais ».
Ok.
Le gouvernement, c'est vraiment mis pour accompagner les entrepreneurs togolais.
Mais, et qu'est-ce que le gouvernement fait exactement, togolais?
Il donne des garanties.
Aux banques?
Aux banques pour financer les entrepreneurs togolais. D'accord. Donc c'est ça le concret. C'est ce qu'il faut faire aussi au Congo. C'est-à-dire ces femmes-là ont des projets, mais si on peut pas essayer de financer individuellement, on peut leur mettre en coopérative, les mettre ensemble et dire ok, nous donnons autant, le gouvernement donne des garanties pour financer ce groupe des femmes. Donc je pense que la solution c'est ça. Les femmes sont là, elles ont envie de travailler, mais le plus grand problème c'est la connaissance, les formations et le financement.
Et au Togo, ça marche bien.
Ça marche très bien. Ça marche. Je suis en partenariat avec un jeune entrepreneur togolais qui a été financé avec 10 millions de dollars. Il a une usine de transformation de manioc et lui il produit de l'amidon qu'il exporte déjà. Donc il est vraiment un expert et c'est avec lui que je travaille pour mon projet agricole ici à Somololo.
D'accord. Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous parlons de la place de la femme dans l'entrepreneuriat et en politique. 63 ans après l'indépendance, deux auditeurs en ligne, Gaston de Kinshasa et Charles Akissimba de Lubumbashi. Vous voulez également participer, composez les 081-890-63-94.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Bien, quelle est la place de la femme dans l'entrepreneuriat et dans la politique 63 ans après l'indépendance? Maître Gaston, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bonjour à vous aussi, Jody, et je salue aussi l'invité. Je voudrais un peu avoir une idée exacte sur les plans entrepreneuriat. Quels sont les domaines en RDC qui nécessitent que les femmes puissent entreprendre dans ces domaines-là? Parce que j'ai comme l'impression que c'est seulement dans le domaine petit commerce qu'on a tendance à voir certaines femmes s'y employer. Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs d'autres domaines qui nécessitent vraiment qu'il y ait des initiatives et qu'on puisse trouver des solutions à ces problèmes qui se posent dans ces domaines-là? Et s'il y en a, l'invité pouvait nous énumérer un peu les domaines. Peut-être ça peut aussi aider les gens qui ne savent pas qu'il faut entreprendre dans plusieurs domaines qui ne sont pas que commerciaux.
D'accord.
Deuxièmement, j'aimerais aussi avoir un peu une idée sur la différence qu'il y a. Parce qu'actuellement, il semble qu'il y a des communes qui livrent les services de l'IPMEA pour les petits commerçants, qui livrent encore des autorisations d'ouverture, des permis d'exploitation, des trucs comme ça. Et pourtant, on a un guichet unique qui est là. Et vous verrez, nos mamans qui ont tendance à entreprendre sont bités à cette difficulté-là. Vous les verrez tous se diriger vers la commune. Est-ce que la commune actuellement, à travers les services de l'IPMEA, a compétence à livrer tous ces documents qu'ils livrent, ou carrément on doit se fier, au guichet unique qui nous livre les RCTM et les documents que nous connaissons? Mais sur le plan politique, j'aimerais aussi avoir une idée, parce qu'on a pu constater que depuis les indépendances, les politiciens congolais utilisent plus la brutalité, la force, les armes pour accéder au pouvoir. Est-ce que ça ne peut pas être cet aspect-là qui fait que les femmes, parce que vous savez, les femmes sont douces, hein, ce sont des personnes douces, qui fait que les femmes ne participent pas beaucoup à la politique et ils restent à la maison pour bouffer, surtout les femmes qui ont des maris politiciens, restent à la maison pour bouffer l'argent de ces maris brigands-là vitales. Parce que vous voyez, avec la tendance des élections, on a vu certaines femmes participer bien que minimes, mais lorsqu'il n'y a pas d'élection, il y a des nominations, des trucs comme ça. C'est souvent les hommes qui ont tendance. Ce n'est pas cet aspect-là des armes, des brutalités pour
accéder. Vous voulez que les femmes aussi deviennent recours à la brutalité?
Oui, oui, parce que vous ne verrez dans aucun groupe armé ceux qui ont tendance à une femme y intégrer.
D'accord, merci. Vous voulez qu'elle recourt aussi à la brutalité pour... Merci d'avoir appelé. Charles Kissimba, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Oui, bonjour Jody. Bonne fête aussi aux femmes qui sont avec vous là-bas.
Il s'agit de quelle fête déjà? L'indépendance?
Oui, de l'indépendance, bien sûr.
D'accord.
Merci.
Allez-y, Charles.
J'anticipe, en tout cas. Mm-hmm. Oui, mais c'est jeudi. Moi, je pense que 63 ans après, la situation économique de la femme n'est pas du tout statique. La femme a un tout petit peu changé. Grâce à la femme, nos maisons sont tenues aujourd'hui par elle. Mais grave est de constater que la femme est toujours étouffée par son voisin qui est l'homme. Nombreuses réussissent en étant célibataires, une fois à côté de l'homme, soit elle déserte et l'abandonne car elle a désormais un mari, soit elle sera interdite par la dictature maritale. Ce que je souhaite à la femme est de la donner surtout tous les moyens qu'il faut, car nous avons constaté que chez elle, les gaspillages sont vraiment peu. La femme n'arrive pas à gaspiller comme c'est l'homme. Et politiquement, pour terminer par là, je souhaiterais à ce que nous soyons quand même dirigés au jour d'aujourd'hui à 90%, voire même 95% par les femmes. Car depuis 60, les hommes ont échoué. Trop de promesses, trop de brutalité, mais rien ne change. Alors nous avons vu récemment avec les Kamabunda, nous avons vu comment c'est que cette femme-là était à mesure de faire. Mais malheureusement...
Bien, vous souhaitez que lors des prochaines échéances électorales, qu'il y ait beaucoup plus de femmes, beaucoup plus la participation des femmes.
En tout cas, qu'il y ait beaucoup plus de femmes, que l'on puisse aussi échouer avec... que l'on puisse aussi... et essayer avec les femmes. Nous avons compris que les hommes ont échoué.
D'accord. hommes... D'accord, merci Charles de Lubumbashi. On va donner la parole à Madame Evelyne, qui nous appelle de Kananga. Madame Evelyne, bonjour.
Bonjour, Daniel.
On vous écoute.
Le réseau n'est pas bon, oui.
Le réseau, alors, bon, ça va, on vous écoute déjà.
D'accord, Daniel. Être en politique, c'est bien. Mais l'homme nous a précédé plutôt en politique qu'il ait la bonne volonté. Qu'il ait la bonne volonté, qu'il accepte que nous sommes partenaires, qu'il accepte de voter des lois pour que nous puissions bénéficier de notre quota. Les politiciens qui sont là se s'alignent sur la liste et quand vous vous battez, soit il faut faire le plaidoyer, soit vous êtes célibataire, vous devez vous laisser faire, soit hein, quelqu'un aussi de bonne foi qui veut, n'est-ce pas, vous promouvoir, il peut le faire. Mais la femme rencontre beaucoup trop de barrières sur le plan politique. Néanmoins, dans l'entrepreneuriat, elle est déjà entrepreneur, comme notre invité l'a déjà dit, elle est déjà entrepreneur. Néanmoins, elle doit être assistée financièrement. Elle doit être appuyée par le gouvernement, surtout la femme rurale, la femme paysanne. Et là, elle cultive, mais elle n'est pas propriétaire de terre. Mm-hmm. Comment trouver les documents? Elle n'a pas de moyens pour entrer au service cadastral. Vous savez tout ce qu'il y a comme manœuvre là-bas. Les titres immobiliers, là, n'en parlons pas. Ce sont des forfaits, hein, des chiffres forfaitaires. On vous dit non, vous devez déposer ici $500 parce que le géomètre qui doit descendre, voilà, voilà. Et quand le géomètre descend là-bas, il va encore réclamer l'argent. Et faut, la femme trouve tout cet argent-là où? Non, non, c'est le gouvernement qui doit faire de tout son mieux pour pouvoir accompagner la femme. C'est le gouvernement, parce que c'est eux qui sont nombreux au Parlement là-bas. Ils doivent accepter de voter des lois. Ça ne doit pas rester dans des discours. Ils doivent voter ces lois-là pour accompagner la femme, que la femme accède aux terres, qu'elle soit propriétaire des terres et que le gouvernement l'accompagne pour obtenir des documents. Elle n'a pas de moyens. Mais si elle présente quand même une portion des terres qui est à sa possession, le gouvernement peut se dire non, nous t'accompagnons, on t'assiste, allez, chez les cadastres là-bas, allez, donnez des documents comme ceci, comme cela. Titres immobiliers, livrez les documents à cette dame parce que elle n'a pas de moyens, alors le gouvernement, soit provincial, soit national, va s'en occuper. C'est tout ce qu'il faut faire. Et l'aider à accéder au crédit facilement. Mm-hmm. C'est question de s'organiser. Le gouverneur, soit le chef du gouvernement national, il est là. S'il y a des femmes qui sollicitent les crédits, on voit d'abord le bourgmestre de la commune, de là où elle habite. Est-elle locataire ou elle a sa parcelle, elle habite là seule, soit avec son mari, on ne sait jamais. Et que le bourgmestre fasse d'abord le suivi. Si le chef de quartier est là, le chef de quartier s'implique.
D'accord, merci. On a compris, Madame Evelyne.
Il l'accompagne au niveau de la banque.
D'accord,
merci. Et la banque donne du crédit à la femme pour, n'est-ce pas, renforcer le pouvoir financier de la femme afin qu'elle fasse face.
Merci, Madame Evelyne.
À tout ce qu'il y a comme place au devant d'elle.
Merci, Madame Evelyne, pour cette intervention. Nous parlons de la place de la femme dans l'entrepreneuriat et en politique 63 ans après l'accession de notre pays à l'indépendance. Honorable Solange Niniezi, votre réaction?
Oui, ma réaction, je remercie les uns et les autres de leur intervention. Et je voudrais commencer, avant de répondre à leurs questions, par cette citation de Lumumba, parce que nous devons faire hommage aussi, à rendre hommage à ces terreaux de l'Afrique et finalement de toute la nation. Il a dit ceci dans sa lettre écrite à Pauline: sans dignité, il n'y a pas de liberté, et sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans l'indépendance, il n'y a pas d'homme libre, d'homme par là, nous parlons aussi des femmes libres. Et donc, je crois que la dignité d'une femme, 63 ans après, c'est aussi sa liberté, c'est aussi son indépendance, son autonomisation, sa place véritable dans l'État-nation, dans la participation réelle. Vous avez vu que l'auditeur a même posé la question pour savoir quels sont les domaines finalement dans lesquels les femmes doivent intervenir. Il n'y a même pas un seul domaine. Nous avons la transformation, nous avons le commerce général, nous avons les domaines d'export-import, nous avons l'immobilier, tous les domaines. Ça dépend de son talent, ça dépend de les domaines culinaires. Il y a tous les domaines en tout cas. Moi, je ne pense pas qu'il y a un domaine spécifique réservé rien qu'aux femmes. Non. Ça dépend de son appel. Mais l'entrepreneuriat, c'est, ça veut dire fournir un service ou soit aller plus dans le domaine de la transformation. Et comme on l'a si bien dit, ce qui freine justement l'entrepreneuriat de la femme, c'est aussi les fonds de garantie promis par le gouvernement. Le gouvernement Sassou Nguesso a promis les fonds de garantie pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Et ça, ça va permettre à certaines femmes d'accéder au crédit sans trop de tralala et de tracasseries. Parce qu'aujourd'hui, elles n'accèdent pas suffisamment. Nous avons des banques qui sont commerciales et qui n'ont pas nécessairement la vocation de booster l'entrepreneuriat. Parce que vite, on vous octroie un crédit, vite vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup plus de pourcentage dans le remboursement, dans le taux de remboursement. Et je crois que la dame a dit que les hommes doivent être sensibilisés. C'est comme un oiseau. L'oiseau ne peut pas voler sans les deux ailes. Et si l'oiseau vole, continue à voler avec une seule aile, ça veut dire avec juste l'apport de l'homme, eh ben l'oiseau ne va pas décoller. Et la République démocratique du Congo, notre pays, ne peut décoller qu'avec la participation, la totale participation de la femme et en politique et dans l'entrepreneuriat.
Bien. Voilà. Honorable Solange Nyenyezi, merci. Je rappelle que vous êtes députée nationale et représentante de la plateforme Action pour l'autonomisation et le développement des communautés africaines. Excellente journée et à la prochaine.
Merci.
Bien, merci. Je reviens à vous, Madame Katia Olangi. Mais avant cela, il y a deux auditeurs. On va prendre deux autres auditeurs et puis je vous donne la parole. Baudouin, vous êtes à Kasumbalesa et héritier des Bounia. Baudouin, bonjour et quelle est votre question?
Bonjour Monsieur Daniel, hein. Merci vraiment pour la thématique du jour et m'avoir associé aussi à ce débat. La femme, depuis tous les temps, j'ai toujours dit, elle est très forte. Nos autres ici, nous avons vécu, nous avons grandi et par les petites entreprises que nos mamans faisaient déjà dès le départ. Voilà. Comment quelqu'un qui a pu, avec la vente des cacahuètes, des maniocs et consorts, qui a pu faire étudier ses enfants. Moi, je vous parle là, je suis étudiant en sciences politiques et administratives. Quand vous me voyez là, bon, vous n'allez pas croire si je vous donne l'histoire.
Vous avez étudié avec les cacahuètes, hein, grâce aux cacahuètes de votre maman.
Comme je vous dis là. Voilà. Donc, c'est pour autant dire que ce sont des gens vraiment à encourager. Je voudrais dire quoi? L'État congolais doit prendre ses responsabilités. Dans le sens que, déjà au niveau du Parlement, comme j'ai tenté de suivre l'écuderie des invités, sont déjà avec nous là sur place, il y a une loi. Non seulement cette loi, que aussi l'État puisse encourager ces femmes-là qui produisent. Le problème ici, c'est quoi? On peut produire, mais on ne sait pas comment rendre utile cette production. Donc je pense que l'État...
Comment l'évacuer vers les grands centres de consommation?
Oui, comment l'évacuer vers les grands centres de consommation, par exemple? Donc, il faut qu'il y ait des entreprises, des traitements de certains produits manufacturés ici, chez nous, sur place, au Congo.
Des transformations.
Donc, ça, c'est vraiment un aspect très important. Donc, la femme est toujours forte depuis tous les temps. Là, je l'encourage. Si elle est forte économiquement, je pense même politiquement, elle le sera.
Merci, Baudouin. Donc, on va donner la parole à Héritier de Bounia. Bonjour, Héritier.
Bonjour, aujourd'hui. Et bonne fête à la Radio Capi.
Merci à vous autant. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la place de la femme dans l'entrepreneuriat et en politique, 63 ans après l'indépendance?
Bon, à l'arrivée du chef de l'État, vraiment c'est Sali, lui qui a encouragé, lui qui veut que dans les institutions de prise de décision, la femme occupe la place la plus supérieure plus que les hommes, parce que la femme congolaise, elle est en face de plusieurs défis, dont la sécurité, l'inaccessibilité au microcrédit, les barrières sur nos différentes routes. Il y a aussi la praticabilité de nos routes. La femme, elle est mise à côté. Vous prenez, par exemple, la femme qui est dans nos deux provinces, l'Ituri et le Nord-Kivu. Vraiment, c'est inacceptable. Elle vit une situation catastrophique que vous ne pouvez pas imaginer, monsieur Jody. Alors, j'aurais voulu poser la question à la dame qui vient de partir, la députée. Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, vraiment, il y a des plaidoyers que nos femmes députées sont en train de faire pour autonomiser la femme, pour que la femme s'autosuffise sur les plans financiers, sur les plans économiques, pour pouvoir permettre à ce que cette femme aussi soit capable de participer au développement de notre pays.
Merci, héritier. Merci, d'accord. Et faire quoi?
C'est déplorable. Alors, la deuxième question que je voudrais poser, est-ce que la dame là qui est en studio là, qu'est-ce qu'elle est en train, elle veut faire pour que d'autres initiatives puissent continuer, puissent s'intensifier même dans d'autres provinces? Voilà ce que j'avais comme préoccupation.
Merci, héritier de Bounia. Madame Olangi Kitia, à vous la parole. Mm-hmm.
Merci beaucoup, monsieur Héritier. Je voudrais déjà expliquer ce que je fais sur terrain, parce que je crois que la dernière fois qu'on a parlé avec vous, je vous ai expliqué que j'organise des forums des femmes entrepreneurs chaque année. Et après chaque forum, nous voulons aller dans le concret. Qu'est-ce que nous faisons réellement sur terrain? Alors après la troisième édition, le thème était la femme entrepreneur dans les secteurs, les opportunités dans les secteurs agricoles. Et après ce forum-là, nous avions décidé de créer 10 entreprises. Et la première entreprise, nous nous sommes focalisés sur l'agroalimentaire. Parce que notre souci, c'est c'est comme il a dit, l'autosuffisance alimentaire, de ne plus importer.
Et oui, dans vous ce programme, la transformation, vous mettez en place une chaîne de transformation.
Une chaîne de valeur de transformation. Alors, ce projet, ce n'est pas un projet qui est focalisé sur les grandes villes. C'est un projet de l'installation de l'usine de transformation dans les territoires. Parce qu'on s'est rendu compte que, c'est comme Monsieur Riffier vient de dire, les territoires sont abandonnés. Et il n'y a pas d'activité, il n'y a rien, il n'y a pas de d'emploi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que nous allons focaliser dans l'agriculture, mais en créant ces usines de transformation dans les territoires. Ça va emmener le développement, ça va amener des infrastructures, ça va créer de l'emploi. Et je vais aller dans le concret. Nous avions déjà commencé avec le territoire pilote à Songololo pour voir comment est-ce que les choses vont fonctionner pendant un an et ensuite copier ces mêmes projets dans d'autres territoires.
Mais vous produisez du manioc et
voilà. Au niveau, qu'est-ce que nous avons fait au niveau de Songololo? Nous avions mis tous les agriculteurs de Songololo en coopérative et nous les avions accompagnés avec un microcrédit. Ils ont pu produire le manioc. Comme on dit en anglais, raw material, le manioc. Et nous avions racheté cette production-là et nous sommes en train de transformer sur place à Songololo. Et comme c'est la nationale numéro 1, la route est bonne, nous arrivons à évacuer de Songololo dans les grandes villes, donc Matadi, Lufu et Kinshasa. Et nous avons aussi notre ligne de distribution au niveau de Kinshasa qui est le supermarché Mabélé. Donc, pendant un an, nous avons d'abord expérimenté les territoires pilotes.
Quelle est la quantité de production de manioc?
Par mois, nous produisons 16 tonnes. Par mois, pour le moment, parce que nous sommes encore dans les semi-industriels. On n'a pas encore la grande industrie. Donc, nous sommes encore dans les semi-industriels. Nous avons produit 16 tonnes. Et les choses se passent bien. Il y a même une forte demande. Parce que, vous savez, à Kinshasa, les gens consomment beaucoup la farine de manioc. Il y a une grande demande. Et non seulement la farine de manioc. Si nous arrivons à avoir ce grand financement, nous allons aussi produire la farine panifiable et aussi récupérer l'amidon que nous pourrons exporter à l'étranger. Donc c'est ça le grand projet. Mais nous sommes déjà en train de produire et les choses se passent très bien.
Bien, il y a aussi un autre projet sur la salubrité, Boupeto. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Oui, c'est comme j'ai dit, cette année nous avons organisé la 4e édition du Forum annuel des femmes entrepreneurs et la thématique était la femme entrepreneur et les opportunités dans la transition écologique. Et après ce forum, nous avions décidé de créer une structure que nous avons nommée Ménage Assaini. C'est justement pour accompagner la vision du gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur Gentil Ngobila, dans son projet Kinbopeto. Ce projet consiste premièrement à la sensibilisation, d'abord identification des ménages. Et la commune pilote c'est Limété, c'est l'identification des ménages. Deuxièmement, nous allons faire du porte à porte pour sensibiliser les femmes ménagères. Comment est-ce qu'elles peuvent trier déjà à la maison? C'est-à-dire, quand on parle du triage, c'est les déchets organiques et les déchets biodégradables, ainsi de suite. Voilà. Mmh. On va les apprendre, c'est du porte-à-porte. Et après ça, nous allons créer des centres de transition, toujours dans ces communes-là, où nous allons aussi créer de l'emploi pour tous ces jeunes qui ne font rien. Nous allons les apprendre à transformer, je vais donner un exemple banal, une bouteille en pavé. Et avec le partenariat avec l'hôtel de ville va racheter ces pavés-là pour pouvoir embellir la ville de Kinshasa. Donc nous sommes déjà dans la bonne voie. Nous avons le mois prochain, nous allons commencer avec la formation, l'identification des ménages, la formation et ainsi de suite. Donc c'est comme je disais, pour moi, la formation, l'acquisition de la connaissance est très importante et la sensibilisation aussi.
Bien, il y a une question de Gaston. Est-ce que la femme qui veut créer, formaliser ses activités, est-ce qu'elle doit se rendre au service de l'IPMEA, voilà, à la commune, ou bien elle doit aller directement au guichet unique de création d'entreprise?
Bon, pour jusqu'à présent, en ma connaissance, je sais qu'il faut aller au guichet unique. Il faut aller au guichet unique. Mais moi, je voudrais donner des propositions au gouvernement d'alléger, de faciliter la tâche aux opérateurs économiques ou aux entrepreneurs. Mmh. C'est d'ouvrir des branches dans les communes. Parce que quand on parle de la décentralisation, c'est aussi ça, Monsieur Jody. Mmh. Décentraliser les services. Ce n'est pas que tout le monde doit venir ici en ville. Et vous savez le problème de transport. Si on peut décentraliser les services, les gens pourront s'enregistrer dans les communes et ça va faciliter la tâche. Donc moi, ma proposition par rapport à tous ces services, c'est de demander au gouvernement provincial de décentraliser les services pour que la population puisse avoir accès facilement aux services.
Bien, Charles de Lubumbashi déplore le fait que la femme est étouffée par son mari. Il y a des maris qui étouffent leurs femmes qui veulent entreprendre. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Oui, ça c'est, je pense que c'est la culture. La culture africaine, la tradition africaine nous a fait croire que la femme, son rôle, c'est dans la cuisine. Bon, moi je pense que c'est vrai. La femme est là pour s'occuper de son mari, de ses enfants. Mais l'homme africain doit aussi comprendre que la femme africaine a des atouts, a des valeurs et a aussi quelque chose à présenter. Donc, si vous sentez et que vous voyez que votre femme a cette capacité d'apporter un plus dans le développement d'une nation, vous devez l'accompagner et la laisser faire. Parce que le rôle de la femme, ce n'est pas seulement de rester à la maison, mais c'est aussi de contribuer au développement économique et social d'une nation.
Mmh. Et Madame Evelyne de Kalanga nous dit que les femmes entreprennent déjà, mais il y a un problème d'accès à la terre. Mmh. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Quelle
oui.
est la solution par rapport à l'accès à la terre?
Oui, c'est en parlant du titre foncier, moi aussi j'ai eu ce problème à Mokambo. La chefferie de Mokambo m'a cédé 3000 hectares pour pouvoir exploiter. Mais maintenant, pour avoir toute la documentation, les titres fonciers, c'est des combats, facile. C'est des problèmes. Ouais. Là, je vous parle, je n'ai pas encore eu. Donc, il y a trop de tracasseries. Alors, c'est comme je dis, il faudrait favoriser les climats des affaires en plus démocratique du Congo. Les gens ont envie d'entreprendre, mais quand ils sont devant toutes ces situations, les gens se découragent. Oui, il y a trop de tracasseries. Vous devez vraiment, le gouvernement doit faire en sorte que les climats des affaires doivent être favorables aux Congolais aussi. Donc s'il y a possibilité même de réduire les taxes, s'il y a possibilité de décentraliser les services, s'il y a possibilité pour moi-même de d'annuler d'autres taxes pour accompagner les entrepreneurs, en tout cas ça va nous faciliter la tâche. Ça c'est vraiment notre demande. Des fois c'est même pas un problème de financement. Des fois c'est le financement, mais pour exécuter les projets, tu te retrouves, il faut payer telle taxe, il faut aller, donc il y a trop de tracasseries. Donc si on peut vraiment nous alléger la tâche, ça va aider les entrepreneurs congolais.
Bien, et par rapport à Madame Nignez a parlé d'un fonds de garantie pour les jeunes et les femmes. Est-ce que ce fonds existe déjà, ou si ce fonds est mis en place, quel sera son impact sur l'entrepreneuriat féminin?
Bon, à ce que je sache, il paraît que ce fonds est déjà disponible, mais bon, c'est comme on dit, l'information. On n'est pas encore informé, comment est-ce qu'il faut procéder, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir avoir accès à ce fonds. Et moi, je pense que si nous avons l'information, si nous savons au moins qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir accès à ce fonds, ça va nous alléger, ça va nous aider. Parce que nous avons des idées, nous avons vraiment envie de travailler, parce que nous les faisons déjà avec fonds propres, mais si ce fonds de garantie du gouvernement va vient encore rajouter un plus dans ce que nous faisons, ça va nous aider, ça va épanouir l'entrepreneuriat dans notre pays.
Bien, Monsieur Baudouin de Kasumbele, ça a reconnu que qu'il a étudié grâce aux arachides que sa maman vendait, et d'après lui, il faut aider la femme à mettre en place des structures de transformation des produits sur place, et ils peuvent aussi se regrouper en coopérative. Est-ce que c'est le cas?
Oui, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je le fais déjà au niveau de Songololo et les choses se passent très bien. Nous avons mis en coopérative tous les agriculteurs de Songololo. Bon, je peux pas dire tout, nous avons identifié quelques agriculteurs et en grande partie, ils ont adhéré à notre coopérative et nous travaillons avec eux déjà et nous produisons la farine de manioc. Tout ce dont nous avons besoin, c'est plus de financement pour augmenter la production et aussi fabriquer la farine panifiable et aussi retirer de l'amidon pour pouvoir exporter, parce que les firmes pharmaceutiques en ont besoin, ils ont besoin de l'amidon pour produire les comprimés. Donc, c'est comme il dit, si nous pouvons avoir cet accompagnement, si nous sommes structurés, les choses se passeront bien, parce que moi, je l'expérimente déjà.
Bien, héritier, y a quelqu'un qui a dit, non, les femmes ne gaspillent pas beaucoup, elles gèrent bien, il faut beaucoup plus donner des avantages, des mesures, des facilités aux femmes pour leur permettre d'entreprendre. Alors, aujourd'hui, 63 ans après l'indépendance, on se rend compte que, tel que l'honorable l'a dit, peut-être autour des 10% des femmes qui entreprennent et qui ont des activités formalisées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que d'ici la célébration de par exemple, 64e anniversaire de l'indépendance, qu'est-ce qui doit être fait concrètement pour booster l'entrepreneuriat féminin, selon vous?
Oui, selon moi, c'est d'aller vers ces femmes-là. Parce que c'est difficile pour elles de venir vers nous. Je pense que vous m'aviez posé la question au mois de mars en disant, vous organisez des conférences dans des quartiers UP, dans des grands hôtels, et ces femmes-là... qui sont loin, qui vivent dans les milieux ruraux, elles auront peur de venir vers vous. Moi, je pense que il est temps maintenant que nous nous dirigeons vers ces femmes-là. Les former à la base, les mettre en coopérative et les accompagner. C'est ça la solution, c'est d'aller vers ces femmes-là.
Il faut aller vers elles. Elles sont nombreuses en RDC.
Oui, elles sont nombreuses, mais il y a aussi beaucoup de femmes leaders. Donc, je peux pas faire le travail seule. Nous sommes nombreuses et je pense qu'il faut le faire ensemble.
Bien, un message à toutes les mamans, les femmes qui vous suivent en ce moment, qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
C'est juste de les souhaiter bonne fête. Moi, je pense qu'il y a de l'espoir pour notre nation, il y a de l'espoir pour notre pays, et le développement se fera par le travail. Mettons-nous ensemble, construisons la RDC.
Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui pensent que Bassi Batonga a un beau caté, les mamans, les femmes ne peuvent pas travailler ensemble, il y aura toujours des problèmes et puis elles vont pas évoluer?
Bassi Batonga a un beau caté, c'est du mensonge. Parce que ce sont ces mêmes mamans-là qui ont nourri les familles. C'est comme notre frère venait de dire, avec des cacahuètes, avec des tomates. Qui ont fait étudier les enfants. Aujourd'hui, nous avons des médecins, nous avons des avocats. Parce que ces mamans-là ont existé et elles ont travaillé. Tout ce dont elles ont besoin, c'est les formations, c'est les financer, c'est d'avoir accès au titre foncier. Et je pense qu'elles feront mieux. Donc c'est tout. C'est
ce que je peux dire. Vous avez dit, l'État peut donner des garanties, un fonds de garantie pour que les mamans aient des facilités auprès des banques.
Oui.
Au niveau des banques pour les crédits.
Oui, c'est ça.
Bien, Madame Ketia Olangi, je rappelle que vous êtes entrepreneur et présidente de la Fondation Neima. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonne journée et à la prochaine.
Merci beaucoup.
L'ordre public, article 23. Mathieu Mobindo CBC, Pascal Elima les cascadeurs, Betela Babosa Touchedi, Maître Chorambouma, Maï Maïmona Facile à Paré.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de La Vie au quotidien au Capi Service. Merci de nous avoir suivis partout où vous êtes en République démocratique du Congo et même sur www.radiocapi.net. Merci à toute l'équipe qui a participé. Merci à toute l'équipe qui a participé à la production de cette émission. Marcel Ngombo était à la coordination. Tati Mapoukou a assuré la réalisation. Polydor Bansunga à la mise en onde au micro. Jeudi, Daniel Kachamar. Restez branchés sur la fréquence et la paix. Vous allez suivre tout à l'heure les informations. Et il ne reste plus qu'à vous dire excellente condition d'écoute des programmes sur Radio Capi et à la prochaine.